France Culture.
Talmudique. Après une carrière militaire flamboyante, Yitzhak Rabin, prix Nobel de la paix en 1994 avec Shimon Peres et Yasser Arafat, fut Premier ministre d'Israël de 1974 à 1977, puis de 1992 jusqu'au 4 novembre 1995, jour où il fut assassiné. C'était il y a 30 ans. Une multitude de lieux publics portent aujourd'hui son nom. Mais en dépit de cette inscription significative dans le temps et l'espace, le souvenir de Rabin a subi le poids de l'usure. Les commémorations se sont étiolées et son projet d'une construction d'une paix forte et durable avec les Palestiniens est devenu vague et lointain, surtout après le 7 octobre et la guerre qui s'ensuivit. Qu'est-ce qui fait mémoire? Comment et par qui se transmet-elle? Comment une mémoire peut rassembler alors que les événements que l'on désire transmettre sont diversement interprétés, voire de façon contradictoire, suivant les failles, les fractures et les oppositions au sein d'une même société, comme c'est le cas dans la société israélienne. Que reste-t-il de la génération qui, après l'assassinat de Rabin, avait fait le serment de poursuivre son œuvre? Quelle imagination faut-il aujourd'hui pour inventer de nouveaux chemins vers la paix? Voilà quelques-unes des questions qu'explore le politiste Denis Charbit dans son dernier ouvrage intitulé « Yitzhak Rabin, la paix assassinée ?», point d'interrogation, sous-titré « Une mémoire fragmentée » qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Denis Charbit, bonjour.
Bonjour.
Denis Charbit, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, spécialiste de l'histoire du sionisme, auteur entre autres d'Israël, L'impossible est anormal chez Kalman Levy en 2024 et Retour à Altneuland, la traversée des utopies sionistes aux éditions de l'Éclat en 2018. On sent, Denis Charbit, en lisant votre dernier ouvrage, comme une urgence. C'est à la fois un constat et un appel, un livre grave, mais pas sans espoir, Denis Charbit.
Oui, un livre grave, mais pas sans espoir, parce que je l'ai écrit au début de l'année 2025, en vue de sa publication au mois de novembre, pour commémorer le 30e anniversaire de son assassinat. Grave parce que la période l'était, elle le reste encore à bien des égards. Et quand je dis à bien des égards, c'est bien sûr et avant tout le 7 octobre, le massacre de masse, et puis ensuite la guerre menée par Israël, avec les débordements ou les dérives qu'on a pu signaler. Mais c'est aussi un livre grave parce que je dirais que le serment que nous avions fait après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, à savoir qu'il fallait être capable de dépasser nos passions, de dépasser nos convictions pour ne pas oublier la solidarité qui nous habite tous, eh bien, on a le sentiment que ça ne s'est pas arrangé depuis. Et que d'une certaine manière, parce que nous n'avons pas traité la mémoire d'Yitzhak Rabin comme il l'aurait fallu, eh bien, nous en payons encore le prix, en dépit de ce qui, je dirais, des soubassements de la société israélienne aspire toujours à une solidarité, à une unité, et pas simplement parce que nous avons des ennemis ou des adversaires, mais parce que l'enjeu reste quand même la création et, je dirais maintenant, le maintien d'un État qui n'existe que depuis un peu plus de 75 ans, 77 ans pour être très précis, et que ça, c'est une mission qui habite tous ceux qui habitent dans ce pays, quelles que soient leurs convictions, juifs ou arabes, religieux ou non religieux, de gauche ou de droite. Et donc ce livre a été écrit en oscillant entre cette nécessaire solidarité et unité et la difficulté néanmoins à y parvenir.
Qui était Yitzhak Rabin, Denis Charbit?
Yitzhak Rabin est d'abord et avant tout, si je puis dire, le premier sabra à avoir été premier ministre en Israël. Jusque-là, tous ceux qui l'ont précédé étaient nés en diaspora. C'est donc l'élite autochtone, celle qui est née dans le pays, qui n'a pas la diaspora pour horizon, qui a le sens du devoir, mais qui en même temps est habité par un certain quant à soi. Et c'est la raison pour laquelle il n'ira pas dans un kibboutz s'établir, comme beaucoup de ses camarades, car ce qu'il gagne beaucoup plus, ce qu'il habite beaucoup plus, c'est moins la fraternité des camarades que la fraternité des frères d'armes. Et il va être
je dirais, toute sa vie obsédé par ceux qui n'en sont pas revenus. De tous les combats que Israël a menés, la guerre d'indépendance, la guerre du Sinaï, la guerre des six jours, il va suivre une carrière militaire. Il va commencer dans l'unité d'élite du Palmar, au sein de la Haganah, et puis il va participer au combat de la guerre d'indépendance, la guerre de 1948, et puis il va être le chef d'état-major en 1967, de la fameuse guerre des six jours, et auréolé de cette victoire, il est celui qui, au moment où il va devenir pour la seconde fois Premier ministre, à partir de 1992, celui qui va comprendre que la force a ses limites, que l'usage de la force est indispensable et nécessaire, mais qu'elle a ses limites et que si une opportunité se présente, eh bien, il faut en tirer parti. Et c'est ça qui fait de ce personnage qui ne se prête pas au mythe, mais en même temps, il y a quand même ce retournement de situation. Je le rappelle également, il est le ministre de la Défense de la première intifada en 1987, celui qui va déclarer « il faut leur briser les os ». Et que 6 ans après, il décide de tendre la main aux Palestiniens, à ceux-là même dont il avait dit qu'il faut briser les os. Il y a dans ce retournement quelque chose qui saisit non seulement d'ailleurs l'opinion israélienne, mais je dirais même l'opinion mondiale, qui a voué à Rabin pour ce retournement-là, ce que de Gaulle avait appelé en son temps la paix des braves. Voilà, une très grande admiration.
Il est né en 1922, il est mort en 1995, à l'âge de 76 ans. Son assassinat, le 4 novembre 1995, fut une déflagration mondiale, et pourtant les causes doivent en être rappelées, car cet assassinat ne surgit pas de nulle part. Je pense bien sûr aux effets de la signature des accords d'Oslo, dont il faut préciser en quoi ils consistèrent et pourquoi la droite et l'extrême droite israélienne s'y opposèrent avec force en faisant une campagne anti-Rabin qui créa un climat de violence dont l'assassinat fut le résultat le plus dramatique.
Ce qu'on appelle les accords d'Oslo, officiellement ils s'appellent la déclaration de principe d'Oslo, c'est une déclaration d'intention. C'est l'idée fondamentale que tous les sujets du contentieux israélo-palestinien doivent être discutés. Mais pas tout de suite, c'est là où il y a une prudence typique d'Yitzhak Rabin consistant à voir les choses avec perspective, avec distance, et non pas se précipiter sur une discussion sur tous les sujets, qu'il repousse donc à 5 ans après l'instauration d'une expérience de bon voisinage. Mais ces 5 ans vont être interprétés par les adversaires du processus de paix comme l'occasion, le temps, le compte à rebours dont il dispose pour faire que l'opinion se détache progressivement de ce processus de paix. Alors du côté du Hamas, c'est essentiellement par des attentats, et du côté de la droite israélienne, eh bien c'est parce que derrière cette déclaration de principe, il voit se profiler la mise en péril de ce que la droite a fait dans l'histoire d'Israël, puisque elle n'était pas aux commandes au moment de la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas elle qui a construit l'armée, l'économie, l'intégration des Juifs de la diaspora venus par millions dans les années 50, 60 et 70. Leur mission, ce par quoi ils veulent apposer leur sceau sur l'histoire d'Israël, c'est le maintien d'Israël dans les territoires occupés par Israël depuis la fin de la guerre de 67, la guerre des six jours, la Cisjordanie, voire la bande de Gaza, mais en tout cas la Cisjordanie, qu'ils rebaptisent la Judée-Samarie, puisque c'est le berceau du peuple juif. Et donc, le but de la droite israélienne, c'est d'anticiper, d'essayer de mettre fin à ce processus de paix, tant qu'il est encore temps, tant que l'irréversible n'a pas été commis, et c'est pour ça que ça commence très tôt. Ça se traduit par le passage d'une controverse autour de valeurs infiniment respectables des deux côtés, par une personnalisation du combat, et notamment en visant Yitzhak Rabin comme la cible de ce combat, dont l'expression peut-être qui est restée dans la mémoire, ce sont ces manifestations en septembre 1995, lorsque Rabin est montré, affiché dans des posters, revêtu de l'uniforme SS. C'est-à-dire, c'est plus que le traître, hein, comme il l'était quand on le voyait avec un kéfier autour de la tête. fait, là, c'est l'exterminateur du peuple juif après Himmler, Hitler. Alors, ça va bouleverser l'opinion publique israélienne et cela va inspirer à l'entourage d'Yitzhak Rabin l'idée de faire un meeting de soutien, ce qu'était initialement le 4 novembre 1995 sur la place des rois d'Israël et qui va se transformer à l'issue de cette manifestation qui a été un succès. On voit Rabin sourire comme on ne l'a jamais vu auparavant. Eh bien, ça va se terminer effectivement par son assassinat.
On va y revenir sur cette soirée du 4 novembre 1995, mais vous venez de parler de la gauche, de la droite. L'opposition gauche-droite en Israël a toujours été forte. Une opposition qui produit une fragmentation sociale que l'on retrouvera ensuite au niveau des commémorations de la mort de Rabin. Ignorer cette fragmentation, c'est passer à côté du sens de nombre d'événements auxquels nous assistons. Je crois, Denis Charbit, qu'une cartographie sociopolitique de la société israélienne serait dès lors bienvenue.
La société israélienne, autour de cette question-là, qui est la question fondamentale, c'est celle qui va structurer le clivage gauche-droite pendant des décennies. Aujourd'hui, ça a un peu changé autour de la question de la démocratie libérale et gouvernement des juges. Mais à l'époque, c'est clair que dans les années 80-90, le clivage gauche-droite, c'est la question, en fait, de l'avenir de ces territoires. On les garde où on s'en sépare en contrepartie d'une paix définitive avec les Palestiniens. Mais là où c'est plus complexe, c'est que d'une part, il n'y a pas moitié-moitié, il y a un tiers qui est favorable, un tiers qui n'y est pas favorable, et vous avez entre les deux un autre tiers qui n'a pas de conviction idéologique bien arrêtée, mais qui voilà est pragmatique et en fonction du climat local, régional et international, se positionne en faveur d'Yitzhak Rabin, parce que nous sommes dans les années 80. Et les années 90, c'est après la chute du mur, c'est la chute de l'apartheid, c'est la fin de l'Empire soviétique, et que ce tiers-là, un peu hésitant, se dit voilà, il faut participer de ce climat-là. Si on ajoute, pour compléter cette cartographie, l'opposition entre religieux et non-religieux, alors qu'initialement, les religieux sont considérés en Israël comme le facteur de modérantisme politique, eh bien voilà qu'à partir des années 70-80, et ça va s'accentuer dans les années 90, il va y avoir un déplacement vers, je dirais, ce qu'on pourrait appeler un maximalisme territorial. Et puis ajoutons un troisième élément, c'est la distinction entre les communautés d'origine, hein, ce qu'on appelle communément juifs ashkénazes, juifs séfarades, les juifs séfarades qui, de 1977, ont voté pour Menachem Begin, et on retrouve un petit peu de ce clivage-là ethno-culturel dans le positionnement en faveur du processus de paix ou en l'opposition au processus de paix. Et ajoutons le dernier élément qui compte aussi beaucoup, les Arabes d'Israël, les Palestiniens d'Israël, qui bien entendu ont le sentiment avec Yitzhak Rabin qu'on les entend pour la première fois, alors qu'ils ne font pas partie ni de la coalition, ni du gouvernement, mais Rabin est sensible à leur vocation d'être un pont entre leurs frères qui sont de l'autre côté de la ligne verte. Et tout ça joue et montre la complexité de la société israélienne et à quel point il est tellement aberrant quand on vit quelques jours en Israël, et à plus forte raison quand on y vit plusieurs décennies, de considérer que tout ça forme un bloc. Non, ça se divise, il y a de la controverse, il y a de la polémique. On estime que c'est ça qui fait la valeur d'Israël, cette capacité autour des grandes questions, pas une question sociale ou économique secondaire, mais au cours des grandes questions de ce que doit être l'État d'Israël. Ça discute, ça se dispute, mais voilà que on va éviter le recours à la violence en attaquant le premier d'entre nous, le Premier ministre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette cartographie que vous venez de nous exposer, il faudrait qu'elle soit plus connue, je dirais, parce que comme vous l'avez très bien souligné, on a l'impression que quand on regarde de l'extérieur, que les personnes qui prennent position contre Israël prennent position en considérant l'ensemble d'Israël comme un bloc, sans prendre en compte cette fragmentation sociopolitique. Et donc, ça pose, je dirais, une façon de parler d'Israël qui est, me semble-t-il, extrêmement préjudiciable. On oublie que c'est un État démocratique, un peuple démocratique, qui a une critique interne au sein même de la société, un esprit critique qu'il faut aider et non délégitimer en parlant à l'emporte-pièce des Israéliens et souvent des Juifs, de manière générale, comme si tous étaient faits d'un bloc, comme si tous étaient l'expression d'une même pensée, enfermée dans une même idéologie, de Denis Charbit.
Tout à fait. Je dirais même que le dynamisme, la vitalité de la société israélienne, c'est quand on se retrouve à plusieurs et qu'on se rend compte de notre diversité culturelle, religieuse, ethnique, politique, idéologique, et que c'est précisément qu'entre tous ces Israéliens, on sait que finalement, c'est pour le bien d'Israël, même si nous avons des visions différentes de ce que doit être ce bien, c'est ça qui nous anime tous. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que on n'a pas transformé les deux parties de la controverse en une catégorisation qui me fait frémir, à savoir celle de ami-ennemi. C'est ça qu'il ne faut pas perdre, et c'est ça qu'on a perdu, effectivement, lorsqu'on regarde Israël de loin, c'est-à-dire quand on... Il y a un mot qui est très à la mode depuis quelques années, que j'entends beaucoup en France aujourd'hui, celui d'essentialisation, c'est-à-dire la réduction à la figure qu'on déteste le plus. Voilà, tous se ressemblent, tous sont le même prototype, alors qu'il suffit d'être un tant soit peu en Israël pour se rendre compte de cette, encore une fois, de cette vitalité, de cette difficulté de vivre ensemble, parce qu'Israël est finalement, quand on y réfléchit bien, une école obligée de la tolérance. On sait qu'on va pas convertir l'autre à adopter un autre mode de vie, à adopter d'autres convictions. Mais précisément à cause de cette pluralité-là, la nécessité de pouvoir discuter. Et c'est là où l'assassinat d'Yitzhak Rabin n'est pas simplement un événement historique qui a lieu en 1995, mais c'est ça, c'est cette ombre-là, cette ligne qui a été franchie, qui fait frémir encore, même si elle est refoulée aujourd'hui, c'est-à-dire là on a dépassé les bornes, là on a considéré que d'avoir raison signifiait que l'autre non seulement a tort, ce qui est normal dans une discussion, mais il mérite la mort.
תנו לשמש לעלות לבוקר להאיר הזעקה שבתפילות אותנו לא תאיר אל תגידו יום יבוא הביאו את היום כי לא חלמכו ובכל הכיכרות הריאו רק שלום לכם רק שירו שיר השלום, עתיר השותפילה, לכן רק שירו, שיר השלום, את זה הכה גדולה. לא, לא, לא.
Nous sommes en train d'entendre John Baez lors d'un concert à Césarée en 1979. Elle chante en hébreu « Shir LaShalom », une chanson pour la paix, composée en 1969 par Yaakov Rotblit sur une musique de Yair Rosenblum, reprise sur scène le 4 novembre 1995, quelques minutes avant l'assassinat de Rabin. Dans les archives de cette soirée, on voit et on entend la voix de Rabin, de Shimon Peres et de la chanteuse Miri Aloni. Un moment très fort, Denis Charbit, Rabin tient une feuille avec les paroles de la chanson, une feuille qui sera retrouvée plus tard dans la poche intérieure de son veston, toute tachée de sang. Une chanson qui dit que la paix n'est pas un miracle, ni un rêve lointain. Elle ne vient pas toute seule avec le temps, c'est un choix, un effort. Il faut oser la vouloir, même si c'est difficile, même si cela va à l'encontre des habitudes et des slogans. C'est le choix que fit Rabin avec Shimon Peres et Yasser Arafat, sous le parrainage de Bill Clinton, un choix qui conduisit aux accords d'Oslo. Cette chanson fut particulièrement chantée depuis, dans toutes les commémorations de Yitzhak Rabin. Que représente-t-elle pour vous aujourd'hui, 57 ans après avoir été composée et 30 ans après l'assassinat de Yitzhak Rabin, Denis Charbit?
Cette chanson, elle a ce double statut d'une chanson culte et d'une chanson controversée. C'est-à-dire qu'elle va toujours circuler entre une chanson qui est l'hymne du camp de la paix et, encore une fois, une chanson culte. Pourquoi ? Les paroles de Yaakov Rotblit sont prononcées par un soldat défunt. et qui dit « Ne versez pas des larmes sur moi, ne vous préoccupez plus de moi, ne murmurez pas des prières pour mon salut, ne dites pas que la paix va venir, faites-la advenir. » C'est-à-dire que la paix n'est pas un état auquel on aspire, c'est une revendication, mais comme dans la Bible, c'est l'objectif principal, c'est l'unité finale, c'est l'harmonie entre les peuples, entre les individus, entre les classes. Et c'est pour ça que cette chanson, elle a ce double registre. Et je peux témoigner, pour avoir assisté à un mariage il y a quelque temps, où au moment de se séparer, c'est cette chanson-là qui a été chantée par le couple et leurs invités, qui étaient des jeunes gens. Le point levé, mais non pas le point levé contre, je dirais, les adversaires, mais le point levé parce que cette chanson est un appel à l'engagement, c'est un appel à ne pas oublier que l'objectif des hommes lorsqu'ils sont sur Terre, c'est d'abord de faire régner l'harmonie et la concordance, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais ne jamais désespérer de cela. Et c'est pour ça que cette chanson, elle oscille entre la chanson d'un camp particulier qui est celui du camp de la paix, mais aussi une chanson, je dirais, universelle. Et c'est pour ça que l'entendre en hébreu par John Baez a quelque chose de très émouvant.
Alors on est à l'époque où elle le chante, c'est l'époque des protest songs. Mais il faut signaler que cette chanson a été créée par un jeune soldat qui, pendant la guerre, a perdu une de ses jambes. Tout de suite, cette chanson est devenue un hymne au sein même de l'armée. Et c'était les soldats eux-mêmes qui chantaient, d'une certaine manière, « Faites l'amour et pas la guerre ». Et c'est extrêmement poignant de voir que cette chanson, elle est chantée au sein même de l'armée et qu'ensuite les paroles ont été changées d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'au début il était dit « les prières ne servent à rien », mais Miri Aloni, la chanteuse qui a été la première à la chanter, cette chanson, s'est dit qu'il faut inclure tout le monde et a transformé les paroles en disant « faites les prières pour la paix ». Je crois que c'est particulièrement important à commenter. Denis Charbit.
Tout à fait, parce que elle reflète cette quête de quelque chose qui dépasse nos conflits, nos intérêts, et puis le fait que, encore une fois, celui qui s'exprime à la première personne est un défunt, et ça c'est rare dans la chanson, on va dire, en pacifiste, antimilitariste, que l'ordre vienne de ceux qui ont payé de leur vie. Oh combien, de ce point de vue-là, cette disposition-là reste actuelle après une guerre qui a fait... de mort.
Il y a une archive qu'on a retrouvée où on voit Miri Aloni. À sa gauche, elle a Yitzhak Rabin, à sa droite, elle a Shimon Peres. Elle chante et elle les fait chanter successivement. Elle essaye de les faire chanter et on voit que Peres chante facilement et que Yitzhak Rabin, qui est très réservé, va quand même chanter. Je vous propose que nous écoutions un morceau de cette soirée du 4 novembre 1995, quelques minutes avant son assassinat, et on poursuivra ensuite notre entretien. Denis Charbit, cette archive est extrêmement émouvante.
Oui, je dirais que c'est exactement la complémentarité entre Shimon Peres et Yitzhak Rabin, puisque on entend la parole assertive de Shimon Peres et la parole prudente, susurrée d'Yitzhak Rabin. C'est ça qui a scellé, en quelque sorte, la confiance des Israéliens. Peres qui allait de l'avant, Rabin qui était là pour freiner, pour ne pas aller trop vite, qui apportait le sentiment de la sécurité. Et c'est ce couple-là, finalement, qui manque aujourd'hui en Israël. Celui qui ouvre la voie et celui qui est, je dirais, à la fin pour s'assurer que tout le monde suit.
Alors après l'assassinat terrible de Yitzhak Rabin, il y a eu des premières commémorations. Il va y avoir une institution mémorielle, il va y avoir une loi qui va instaurer la commémoration de ce 4 novembre 1995 dans les écoles. Les écoles vont pas faire cette commémoration de manière identique, chacun choisissant selon son orientation politique. Denis Charbit.
Effectivement, cette loi mémorielle, elle n'est pas la seule à avoir été promulguée à la Knesset, mais elle est l'unique qui exige de l'éducation nationale de procéder autour du 4 novembre, de chaque 4 novembre, à une commémoration. Et cette commémoration, effectivement, avec le temps, elle va prendre diverses formes. Alors pourquoi ? Ben d'abord, parce qu'il faut savoir que l'éducation nationale, contrairement au modèle français, ici est structurée en plusieurs courants. Il y a le courant de langue arabe, pour les élèves palestiniens d'Israël. Vous avez le courant qui est religieux, dans lequel les études religieuses sont une part importante de l'enseignement. Et puis vous avez le courant public, on va dire laïque, et bien entendu que chacun va commémorer, puisque c'est la loi qui l'exige, mais le faire chacun un peu à sa manière. Alors pour le réseau scolaire arabe, c'est bien entendu l'homme de paix qu'on va mettre en avant. En revanche, pour le secteur religieux, alors d'abord, dans le monde religieux, on ne rend pas un culte à un homme de surcroît s'il n'a pas été croyant et pratiquant, et puis c'est celui qui incarnait la cause adverse, celui de la rétrocession des territoires. Donc, eh bien, ce qu'on va faire dans le secteur religieux, c'est qu'on va se souvenir que la matriarche Rachel est décédée à un jour près, comme Yitzhak Rabin dans le calendrier hébraïque, et on va faire désormais une commémoration Rabin Rachel, et progressivement, après l'intifada, après le 7 octobre, on va oublier la commémoration Rabin et on va ne retenir que la commémoration de Rachel la matriarche. Et dans l'école publique, eh bien, on va pas vouloir faire de vagues. On va parler de l'homme, on va parler de sa carrière militaire. On dira qu'il a été assassiné et on citera le nom de son assassin, mais on n'ira pas plus loin. Ou alors, si on se sent plus fidèle à sa mémoire, on en parlera également à travers différentes possibilités. On va évoquer le contrat civique. Qu'est-ce qu'on a le droit quand on s'exprime ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser ? Donc on va en faire une leçon d'instruction civique. Mais pour la plupart, on va éviter de discuter de ce qui divise, puisque l'école est censée unifier et que ce sujet-là est trop brûlant.
Alors on peut parler d'un échec de la mémoire en milieu scolaire d'une certaine manière et un échec de la mémoire en milieu institutionnel, et cela vous a amené à réfléchir sur la construction de la mémoire de cet événement et sur les canaux de sa transmission, et vous êtes arrivé à la conclusion que dans le cas de Yitzhak Rabin, c'est peut-être par l'art et la culture que cela passe. Vous parlez de littérature, de cinéma et de musique. Cela fait écho à ce que vous suggériez déjà dans votre livre sur Herzl et les utopisionnistes. Il faut de l'imagination, du romanesque, pour être capable de faire de la politique, Denis Charbit.
Merci Marc-Alain de me poser cette question qui est pour moi capitale. On ne devrait pas pouvoir faire de politique si on n'y intègre pas une dimension de l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'effectivement que je dirais en quelque sorte moi-même, hein, mais pas que moi, je me réfugie quand je pense à la mémoire de Rabin, à justement à cet apport de la culture, des intellectuels, des artistes, des cinéastes, le film d'Amos Gitai, des chansons qui ont été créées dans la foulée de son assassinat. Je pense à des biographies et je pense notamment à la littérature. Même à l'humour, c'est dans la littérature et dans le cinéma et dans les arts, je n'ai pas parlé des arts, mais j'en parle bien sûr dans le livre, qu'on représente cette mémoire confisquée, cette mémoire interstitielle, celle avec laquelle, au final, un jour on se mesurera beaucoup mieux qu'on ne l'a fait pendant ces 30 ans, parce que d'une certaine manière, et ce n'est pas par hasard si autour de cette question de la commission d'enquête que les Israéliens exigent, hein, pour revenir sur les causes du 7 octobre, certains disent c'est Rabin qui est coupable. Donc ça montre à quel point ce que je dis dans le livre, il est un absent présent. Il est présent dans le nombre d'écoles et de jardins d'enfants et d'institutions qui portent son nom, mais il est absent comme un fantôme, c'est-à-dire qu'il nous hante. Et de ce point de vue-là, même si on pourrait penser que c'est l'histoire d'un échec, je dirais que cette histoire de la mémoire de Rabin n'a pas dit son dernier mot, parce que, qu'on le veuille ou non, ces 2 ans de guerre ont remis sur la table le primat de cette question israélo-palestinienne, là où on nous serinait depuis 10 ans avant 2023, que cette question est devenue marginale, qu'elle a disparu de l'agenda. Elle n'a pas disparu, elle est présente, et c'est pour ça que le fantôme, je dirais, d'Yitzhak Rabin redevient présent, même si pour beaucoup il reste l'objet d'un refoulement.
Denis Charbit, la grande question qui est en filigrane tout au long de votre livre est de savoir ce qu'il reste de l'œuvre de Rabin, de son projet de paix avec les Palestiniens, particulièrement aujourd'hui, après le massacre du 7 octobre et la guerre qui s'ensuivit à Gaza. Quel avenir pour la paix? La paix est-elle définitivement assassinée? Qu'adviendra-t-il du Shir LaShalom, Denis Charbit?
Bien, je dirais que si le massacre de masse du 7 octobre et la guerre qui a suivi inspirent chez beaucoup d'Israéliens l'idée que on ne peut plus jamais parler avec les Palestiniens, mais il le disait également avant, mais il le pense encore plus, j'ajouterais néanmoins que pour beaucoup d'Israéliens, plus nombreux qu'on ne croit, plus que jamais, il faut revenir à ce qu'avait compris Yitzhak Rabin en 1993 lorsqu'il s'est lancé dans ce processus de paix. Pour résoudre le conflit israélo-palestinien, il faut mettre à table Israéliens et Palestiniens. L'Europe, les Américains, les ONG peuvent appuyer, peuvent soutenir, mais au final, c'est l'affaire des Israéliens et des Palestiniens. Et je dirais qu'on a besoin, sans doute aujourd'hui, après le 7 octobre et après la guerre qui a été menée, on a besoin des autres pour reprendre cette voie du dialogue. Mais je pense que plus que jamais, cette idée-là a fait son chemin. On ne se cache plus, on ne dissimule plus que la vraie question, c'est bien celle de la paix, c'est bien celle de mettre un terme à ce conflit séculaire qui meurtrit Israéliens et Palestiniens.
Merci Denis Charbit pour cette conversation importante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, un livre riche de questions, de réveil et d'espérance, Yitzhak Rabin, la paix assassinée, point d'interrogation, sous-titré La mémoire fragmentée. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci encore Denis Charbit.
Merci infiniment Marc-Alain Wacklin.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui d'Ali Yaha, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.